évidemment, dans le cas de l'espéranto, on ne peut pas parler d'hymne national. C'est l'équivalent donc de l'hymne national pour les pays, mais là, il faudrait parler de l'hymne international, ce qui est un petit peu gênant aussi parce que on pense tout de suite à l'international, qui est encore autre chose. Mais il est vrai, en effet, qu'il y a eu une poésie de Zamenhof lui-même, qui s'appelle La Espero, donc l'espoir, qui a été mis en musique par Duménil. Je vais peut-être pas vous le chanter, je vais simplement, entre guillemets, vous déclamer les premiers vers de ce poème, en espérant que je m'en souvienne. Donc c'est « En la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugiloi de facila vento, flugu, di flugu de loco a loco. » Déjà, le dernier vers, je l'ai mal dit, c'était dans un sens un petit peu différent. Je vous traduis, parce que c'est surtout ça quand même qui est un petit peu important. Donc, en la mondon venis nova sento, donc dans le monde est venu un sentiment nouveau. Tra la mondo iras forta voco, à travers le monde va un appel puissant. Per flugilo ed facile vento, sur les ailes du vent, nun de loco flugu di a loco, d'un lieu à un autre maintenant qu'il vole de lieu en lieu, si vous voulez. Donc c'est ce sentiment nouveau, c'était l'étonnement et l'émerveillement des espérantistes de voir qu'ils arrivaient à communiquer avec des gens complètement différents. Et c'est vrai que ce sentiment, je pense que tout espérantophone l'a connu dans les premiers temps de sa vie en espéranto, si on veut. Moi, ça m'est arrivé avec un japonais, parce que peut-être le Japon représente un peu pour nous le summum de l'altérité. Pouvoir discuter tout à fait naturellement avec un japonais, c'était quelque chose d'un petit peu merveilleux, la première fois que ça arrive. Avant la Première Guerre mondiale, le gouvernement français a eu sans doute l'impression que l'espéranto était en quelque sorte en concurrence avec le français comme langue internationale. Et là, on peut s'étonner actuellement. À l'époque, c'était peut-être encore vrai, puisqu'au XVIIIe ou même XIXe siècle, il est vrai que le français était, par exemple, un peu la langue diplomatique. Mais les gens qui continuent à penser que le français aurait un rôle qui est celui de l'anglais actuellement sont beaucoup plus utopiques, à mon avis, que les gens qui peuvent penser que l'espéranto pourrait avoir un rôle un peu plus important au niveau mondial.
La circulaire du ministre Léon Bérard, le 3 juin 1922, adressée au recteur. Depuis quelque temps, on me signale qu'une propagande des plus actives est faite, tant auprès des élèves des établissements d'enseignement qu'auprès des maîtres, en faveur de l'espéranto. J'ai même été saisi à plusieurs reprises de demandes émanant de corps constitués ou d'associations tendant à faire figurer l'espéranto au nombre des matières qui sont enseignées dans les établissements de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique. C'est pourquoi j'estime que le moment est venu d'examiner la question de l'espéranto dans ses rapports avec l'enseignement public. Je suis absolument convaincue que l'espéranto n'a aucun titre à figurer dans l'enseignement. Les raisons qui ont fait introduire de plus en plus les diverses langues vivantes dans les programmes n'existent pas pour l'espéranto. Pour admettre l'enseignement d'une langue dans nos classes, il faut qu'elle ait à la fois un usage très répandu et une littérature digne de ce nom. L'espéranto n'a ni l'un ni l'autre. Aussi bien, les dangers de l'espéranto semblent s'être accrus depuis ces derniers temps. Des organisations internationales qui ont leur siège à l'étranger s'efforcent de développer les relations entre les groupes espérantistes des divers pays. D'après les documents que publient certains de ces organismes, Le but de cette propagande ne serait pas tant de simplifier les relations linguistiques entre les peuples que de supprimer, dans la formation de la pensée, chez l'enfant et chez l'homme, la raison d'être d'une culture nationale. Ces groupements visent surtout l'esprit latin et en particulier le génie français. Suivant l'expression même d'un espérantiste, il s'agit de créer la séparation de la langue et de la patrie. L'espéranto devient donc un instrument d'action d'un internationalisme systématique, ennemi des langues nationales et de toutes les pensées originales qui expriment leur développement. Pour ces diverses raisons, je vous prie d'attirer l'attention des parents et des élèves des établissements qui sont placés sous votre autorité sur la propagande espérantiste. Je vous prie également d'avertir les professeurs et les maîtres d'avoir à s'abstenir de toute propagande espérantiste auprès de leurs élèves. Vous inviterez les chefs d'établissement à refuser d'une manière absolue le prêt des locaux de leurs établissements à des associations ou à des organisations qui s'en serviraient pour organiser des cours ou des conférences se rapportant à l'espéranto.
Vous avez bénéficié de l'aide du gouvernement français pour l'enseignement de l'espéranto et la diffusion de cette langue ?
Chaque fois que la question est posée, on obtient toujours la même réponse stéréotypée. Il y a déjà 12 langues qui sont enseignées. Il n'apparaît pas utile d'en ajouter une 13e. Quelques années après, d'une autre couleur politique, il y a déjà 22 langues enseignées. Il n'apparaît pas utile, etc. Quelques années après, 4 fois, j'ai relevé ça dans la bouche de... Exactement la même phrase. Ce qui prouve à quel point le sujet a été étudié sérieusement.
Comment vous interprétez cette réticence ou hostilité ?
Une frilosité. Une frilosité, même des gens éminents qui étaient espérantistes, quelquefois disaient « Ne dites pas que je suis espérantiste, ça ne fait pas sérieux. »
Actuellement, il y a justement un mouvement pour, non pas exiger, mais pour demander que l'espéranto puisse devenir tout simplement une option facultative au baccalauréat. Bon, je précise bien, on ne demande pas un enseignement obligatoire de l'espéranto. Ça sera bien le choix de chacun de apprendre l'espéranto en plus des matières déjà existantes. Mais si c'est reconnu comme une option facultative au bac, ça permettrait aux gens de gagner quelques points si ils sont bons dans la langue en question.
Le mot d'utopie ne me gêne pas, étant donné que tout ce qui est réalité aujourd'hui était utopie hier. Donc ce qui est baptisé aujourd'hui utopie, ce sera la réalité de demain. Il serait temps que ceux qui utilisent ce terme en prennent conscience. Quand on me dit votre nationalité, je dis je suis né par hasard en France, je suis par hasard français, je n'y suis pour rien, je n'en ai ni honte ni gloire. Et je suis homme d'abord et citoyen du monde, si je puis dire.
Egidio Festa, vous êtes avec nous en studio parce que vous avez traduit un livre incroyable et merveilleux, abracadabrantesque, comme dirait l'autre, qui s'appelle « Dictionnaire des langues imaginaires ». Il est publié par les éditions Les Belles Lettres, il fait à peu près 600 pages, et c'est un livre qui était paru en 1994. 10 ans avant, en France, on avait connu le livre de Marina Jagello, « Les fous du langage », publié en 84. Mais ce livre, « Dictionnaire des langues imaginaires », est paru en Italie en 1994.
Et Berlinghiero Bonarroti n'est pas du tout un linguiste, il enseigne le graphisme éditorial et la technologie graphique. Et ils se sont pris d'intérêt pour les langues imaginaires, un peu par hasard, et ils ont accumulé une somme d'informations, de données, qui ont fait en sorte que l'éditeur Zanichelli leur a demandé d'en faire un dictionnaire, ce qui était non seulement original, mais unique, je crois, dans l'histoire, des langues et des langages. Langues imaginaires, d'après leur propre définition, ce sont donc les langues qui ne sont pas naturelles et qui ne sont pas transmises par voie orale ou écrite par les parents et par l'environnement culturel.
Alors ce livre, avant toutes les entrées, comporte deux tableaux. Et le premier, c'est un tableau chronologique des principaux auteurs de langues imaginaires. Alors je ne vais pas vous le faire commenter, Gidio Festa, mais on voit que la première langue imaginaire, selon les auteurs, eh bien, c'est évidemment Aristophane, en 405 avant Jésus-Christ. Et puis, ce qui est très curieux, c'est que ça continue. Enfin, on a l'impression qu'il ne se passe quasiment pas une année quand on regarde ce tableau. Pas une année sans que quelqu'un ou quelqu'une décide d'inventer une langue et de l'offrir à l'humanité qui souvent n'en est jamais consciente.
Vous avez tout à fait raison. Le précurseur, si on peut dire, de tout le travail et de toute l'activité qui s'est développée autour du concept de langue imaginaire et de langue artificielle, donc de langue non naturelle, le précurseur, c'est bien au 5e siècle avant Jésus-Christ, Aristophane. Et il l'est d'ailleurs dans une parodie de langues étrangères sur laquelle je ne vais pas m'attarder, mais dans le dictionnaire, on trouvera des morceaux de cette parodie burlesque qui est très intéressante aussi parce qu'elle met en évidence une certaine antériorité dans les modes du burlesque tel qu'il a été développé tout au long du XXe siècle, notamment par le cinéma, et surtout en Italie par des acteurs comme Toto, comme Vede Filippo, etc.
Alors l'autre tableau, on ne va pas le commenter non plus, c'est le schéma analytique des langues imaginaires, avec les langues profanes, les langues sacrées, les langues structurées, les langues non structurées. Et alors c'est absolument incroyable parce que, bien entendu, il y a le fantastique, la science-fiction, les langues ludiques, les langues expérimentales. On en trouve dans la littérature, dans la poésie, dans les arts visuels. Enfin, il y a un classement absolument faramineux. Et je me dis que, plutôt que de commenter un tel classement, même si vous pourrez y revenir si vous voulez, Gito Fasta, le mieux serait peut-être de prendre l'un de ces multiples articles, l'une des entrées. On connaît assez bien en France Antonin Artaud et ses xylophonies. Alors ce qui est très curieux, c'est qu'effectivement, dans ce dictionnaire, parmi les multiples entrées, c'est pas très curieux, on le savait, mais là, on découvre Gramsci. Et on ne l'attendait pas forcément là, l'Antonio Gramsci, qui parfois est appréhendé d'une façon beaucoup plus sérieuse, même si, vous venez de le dire à l'instant, et Gillo Festa, le contexte historique de l'époque, à savoir le fascisme, entrait en ligne de compte.
Il faut préciser que dans l'idéal de beaucoup d'auteurs de langues artificielles, disons au 18e, 19e siècle, il y avait le fait de permettre à l'humanité de se retrouver dans une langue commune. Donc à la base, il y avait un idéal de paix et d'amitié entre les peuples. C'était l'époque des guerres, comme vous le savez, qui faisait beaucoup de morts, faisait pleurer beaucoup de gens. Donc il y a cet idéal et qui a aussi intéressé des scientifiques comme Peano, le mathématicien Peano. Mais ce qui est curieux, c'est qu'Antonio Gramsci, lorsque on est en train de lancer au début du XXe siècle l'espéranto, il s'élève contre cette initiative. Pourquoi ? Parce que, à son avis, et d'une certaine manière, il a raison de le dire, il ne veut pas qu'il y ait des gens qui voudraient promouvoir artificiellement une langue rendue définitivement rigide, ne souffrant d'aucun changement dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire que pour lui, la langue est un produit d'une civilisation, d'une culture, d'une société, et on ne peut pas la créer artificiellement et prétendre qu'elle reste telle que pour que tout le monde puisse s'en servir dans le temps et dans l'espace. Mais cette révolte donc contre l'espéranto de Zamenhof, qui avait été rendue officielle au début du siècle, s'accompagne en même temps d'une sorte d'espoir qu'une langue universelle puisse naître, mais alors elle ne viendra pas, bien entendu, des spécialistes du langage, mais elle viendra de la révolution prolétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les socialistes mettront en place des États qui seront frères entre eux et qu'il n'y aura plus de guerre, à ce moment-là, on pourra envisager une langue pour tous ces États, et cette langue pourrait être celle du premier pays qui aurait réalisé le socialisme. C'est assez singulier et c'est intéressant de le voir, ce point de vue, à l'intérieur de mouvements pacifistes, finalement, qui s'opposaient de manière un peu non organisée à l'époque à la politique des différents États qui étaient bellicistes.
Donc, merci de nous avoir quasiment créé une sorte de mise en abîme de ces utopies à la fois politiques et linguistiques, Lido Festa. Il faudrait dire que là, nous n'avons examiné que deux articles. Il faudrait presque songer un jour à faire une sorte de pas de poème, mais plutôt de feuilleton radiophonique à partir de ce dictionnaire, car chaque article, chaque entrée mériterait.
Excusez-moi, il y en a 600, et il y a 1100 langues qui sont citées.
Donc vraiment, moi, je ne peux que renvoyer, même s'il est assez cher, je ne peux que renvoyer les auditeurs à ce livre tout à fait incroyable et singulier. Je rappelle donc Egidio Festa, que vous l'avez traduit, et qu'il est édité aux belles lettres, et qu'il s'appelle « Dictionnaire des langues imaginaires », et je vous laisse prononcer le nom de ses auteurs.
Paolo Albani. Donc Paolo Albani, comme je l'ai dit, c'était le linguiste parmi les deux. Alors que Berlinguero Buonarroti est un professeur de graphisme.
Merci, Egidio Festa.
Merci.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, aujourd'hui centrée sur le documentaire de Jean-Claude Lescure, L'espéranto de l'histoire au présent. Avec Philippe Berizzi, Christian Lavarenne et Jean Marin. Texte dit par Vanda Benesch, équipe de réalisation Jean-Michel Després, Delphine Baudet, Ronan Mahé, Hélène Dour.